Bon, tout d'abord, bonjour. Moi, je voudrais vous présenter les camarades qui sont à cette tribune, là, qui conduisent, ils conduisent tous les 11 listes de lutte ouvrière de l'agglomération lyonnaise. Bon, ces listes rassemblent quelques 350 listiers, colistiers, qui se sont engagés à nos côtés pour faire entendre le camp des travailleurs. Ces colistiers vont ainsi permettre aux électeurs des classes populaires d'utiliser ces élections municipales, les premières élections depuis 2012, pour infliger un désaveu très clair à la politique de Hollande. Alors, un peu plus à ma droite, Marie Seyman. Enseignante en lycée professionnel et conseillère municipale à Vénissieux. La ville de Vénissieux, là, concentre un grand nombre d'entreprises industrielles. Elle a connu ces derniers mois des suppressions d'emplois, y compris dans des groupes qui rapportent beaucoup d'argent à leurs actionnaires. Chez Bosch, un an à peine après le lancement de la fabrication des panneaux solaires, la direction a annoncé l'arrêt de cette production qu'elle ne juge pas assez rentable. 240 emplois sont directement menacés. Le repreneur trouvé par Bosch ne conserverait que la moitié des emplois. Pour mémoire, Bosch emploie toujours 300 000 salariés dans le monde et a fait plus de 2 milliards de bénéfices en 2012. Et il prétend avoir encore des problèmes sur tous ses sites. C'est à Vénissieux ainsi qu'à Saint-Priest qu'un autre groupe richissime, Volvo, propriétaire de Renault Trucks, s'apprête à supprimer plusieurs centaines d'emplois. C'est une partie des 4500 emplois que Volvo veut supprimer dans le monde. Au plus fort de la crise, Volvo Renault Trucks a bénéficié d'un prêt gouvernemental de 500 millions d'euros. Il finance une partie de sa recherche grâce au crédit d'impôt recherche et il va en même temps bénéficier du crédit impôt compétitivité. Et Volvo s'apprête bien sûr à verser un dividende en hausse à ses actionnaires. On pourrait encore citer la fermeture de l'agence Maury Ducrot de Vénissieux où 168 travailleurs ont été licenciés lors de la mise en liquidation de ce transporteur, suivi de la reprise par le même actionnaire, Arcol Industries. Au passage, Arcol a supprimé 3000 emplois, mais elle a reçu le soutien financier de Montebourg et du gouvernement. Ces trois cas illustrent la nécessité vitale d'interdire les licenciements. Alors, toujours à ma droite, Philippe Bruneau. Ouvrier en pré-retraite de Renault Trucks conduit la liste à Villeurbanne. Ces derniers jours à Villeurbanne, les ateliers, un atelier de confection de sous-vêtements de luxe, démarré notamment par plusieurs anciennes salariées de Le Jabi et qui emploie actuellement une trentaine de personnes, s'est retrouvé menacé. Les banques refusaient de prêter les fonds de roulement nécessaires malgré des commandes. La somme nécessaire était ridicule comparée au profit que peut faire le secteur bancaire. Profit qui alimente en permanence la spéculation financière au lieu de permettre des investissements productifs. Campagne électorale oblige. Les ateliers semblent avoir retrouvé des perspectives de financement. Mais pour combien de temps? L'exemple des ex-Le Jabi montre que dans cette société, les banquiers ont tous les pouvoirs et leur parasitisme est total. Pour justifier leur marge éhontée, les banques ne cessent d'invoquer le risque. Mais des risques, ils n'en prennent jamais. Et en cas de faillite, ce sont toujours les travailleurs qui trinquent. Marie-André Marsteau. Excuse-moi. Médecin santé prévention en retraite, tête de liste à Vaux-en-Velin, conseillère municipale sortante où elle siégeait aux côtés de Nathalie Arthaud. Vaux-en-Velin illustre que, quels que soient les efforts et les choix de l'équipe municipale majoritaire, il n'est pas possible de s'émanciper du contexte économique général. Vaux-en-Velin est l'une des villes les plus pauvres de l'agglomération. Le revenu médian par habitant y est de 12 000 euros par an. Un chiffre 2,5 fois plus faible qu'à Caluire, une ville de taille comparable. Le taux de chômage à Vaux-en-Velin, culmine autour des 20% de la population active. Et bien sûr, depuis 2008, avec la crise et les destructions massives d'emplois, la précarité et la pauvreté n'ont fait qu'augmenter. Certes, pour compenser, la municipalité essaie de mettre des moyens, que ce soit au niveau du sport, de la jeunesse ou des écoles. Au fil des années, les quartiers sont rénovés, des bâtiments neufs sont construits. Mais outre que cette politique de la ville ne compense que très faiblement les difficultés sans fin dans lesquelles sont plongées des milliers de familles, tout cela est conditionné au maintien des diverses dotations de l'État. Or, celles-ci sont déjà en baisse sur l'ensemble du pays. Et pour compenser les dizaines de milliards du pacte de responsabilité, le gouvernement a déjà annoncé qu'il réduira les dotations aux collectivités locales. Inéluctablement, les municipalités, quels que soient les choix de leurs maires, sont étranglées par ces plans d'austérité. Christian Prada. Enseignant, conseiller municipal sortant à Saint-Fons. Nous pourrions quasiment reprendre pour Saint-Fons le même constat que pour vous. Mais une des actualités récentes à Saint-Fons a été l'expulsion suivie de la destruction des bidonvilles occupées par les Roms, au bord du périphérique. Depuis 5 ou 6 ans, quelques centaines de Roms venus de Roumanie ou de Bulgarie survivent dans l'agglomération lyonnaise. Ils vont de squat en campement de fortune, ou au gré des expulsions demandées par les maires ou les préfets, au gré des incendies accidentels ou criminels dont leurs taudis sont victimes. À chaque fois, ils n'ont d'autre choix que de reconstituer un autre campement tout aussi infâme. Au ministère de l'Intérieur, Valls a remplacé Guéant, mais cela n'a changé ni la traque des Roms, ni même les discours xénophobes stigmatisant cette population, accusée de ne pas vouloir s'intégrer. Mais pour s'intégrer, encore faut-il avoir les moyens. Jusqu'au 1er janvier de cette année, les ressortissants roumains et bulgares avaient un accès limité à la plupart des emplois. À Saint-Fons, les enfants du bidonville avaient été un temps scolarisés. Mais comment poursuivre une scolarité quand on vit dans des conditions sanitaires immondes, quand on est sous la menace permanente d'une expulsion ou quand les campements subissent la loi des voyous ou des trafiquants? Aucune expulsion sans solution de relogement, avait annoncé le gouvernement Hérault à l'été 2012. Mais les expulsions se poursuivent sans le moindre relogement. En septembre dernier, plusieurs maires PS de la région se sont fendus d'une tribune pour soutenir Valls quand il a tenu des propos nauséabonds sur les Roms. Élections municipales en vue, ces maires n'ont pas hésité à flatter les préjugés les plus réactionnaires, disputant ainsi leurs électeurs au Front National. Mais aucun de ces maires signataires, dont celui de Lyon et celui de Villeurbanne, ne s'est donné la peine de trouver une solution définitive pour loger dans des conditions dignes quelques centaines de familles roms. Comme si une agglomération comme Lyon, comme celle de Lyon, l'une des plus riches du pays, n'en avait pas les moyens. Jean-Luc Renaud. Facteur en retraite, conseiller municipal à Oullins depuis 2001, il conduit de nouveau la liste lutte ouvrière. Le maire UMP de Oullins s'est illustré récemment en tentant de mobiliser la population, surtout les commerçants, contre l'accueil sur la commune d'une partie des demandeurs d'asile du pont de l'autoroute A7, près de Perrache. Le même maire n'est pas pressé de construire de nouveaux logements sociaux sur sa commune. Le déficit de logement social est chronique à Oullins, comme dans bien d'autres villes de l'agglomération. Le taux de 20% fixé par la loi, et qui devrait dépasser 25%, n'est pas respecté. Oullins plafonne à 17%. À Oullins, le maire UMP est pour lui la mixité sociale est sans doute un gros mot. Mais la politique urbaine qui consiste à encourager l'accession à la propriété et surtout à offrir un marché en or aux rois du béton, les Bouygues, Fage, Vinci, n'est pas l'apanage de la droite. Le ministre du Logement a changé. Mais après le Borloo, ou le Cellier, on a maintenant le Duflot, un autre mécanisme de distribution d'argent public sous forme d'exonération fiscale pour que les spéculateurs soient assurés de la rentabilité de leurs placements. Il me reste à vous présenter les camarades qui conduisent les listes de lutte ouvrière dans les 6 arrondissements de Lyon où nous sommes présents. Jean-Noël Duduxian. électricien à l'hôpital du Vinatier, tête de liste dans le premier. Arlette Couson. Technicienne de laboratoire aux HL, tête de liste dans le quatrième. Alain Ternot. Enseignant en lycée professionnel, conduit la liste dans le cinquième. Marie-Christine Pernin, à ma droite, conduit celle du huitième. Anne-Marie Chambon. Enseignante à la retraite qui conduit celle du neuvième. Et moi-même, Olivier Minou, ouvrier dans la chimie. Qui conduit la liste du 7e arrondissement. À Lyon, il est impossible de distinguer la politique proposée par Gérard Collomb, qui a même fait disparaître toute référence au Parti socialiste dans son matériel de campagne, de celle proposée par son adversaire de l'UMP. Ami de longue date du milieu patronal lyonnais, héritier politique revendiqué de Raymond Barre, qui fut un des précurseurs de la rigueur pour les classes populaires, soutenu par l'ancienne présidente centriste du Conseil régional, Anne-Marie Chambon, Comparini, Gérard Collomb illustre parfaitement à l'échelle de la ville et de l'agglomération ce que ressentent beaucoup d'électeurs des classes populaires que nous rencontrons dans cette campagne. Qu'ils soient de droite ou de gauche, du PS ou de l'UMP, les politiciens au pouvoir mènent la même politique et ils sont les mêmes serviteurs zélés des exigences patronales. Ce qui est vrai au niveau national l'est également au niveau d'une agglomération comme Lyon, bientôt rebaptisée Métropole, où les moyens et les budgets considérables offrent au personnel politique de multiples occasions d'arroser la bourgeoisie locale ou nationale grâce aux réalisations de prestige et aux délégations de services. Mais nous le disons depuis le début de cette campagne, les problèmes cruciaux des travailleurs ne peuvent être résolus à l'échelle d'une commune ou de la métropole. Ces élections municipales ont un enjeu national. C'est pourquoi, pour parler des axes politiques de notre campagne et des perspectives que nous voulons offrir à notre camp, je laisse tout de suite la parole à Nathalie Arthaud, notre porte-parole nationale.